à l'occasion de la journée nationale, voire internationale, du diabète. Radio Mayuri Campus accueille le docteur Pierre Famao. Bonjour docteur.
Bonjour, bonsoir.
Vous êtes diabétologue, vous êtes endocrinologue également. À quel moment peut-on considérer, docteur Famao, que l'on est diabétique?
Là, ce sont des critères biologiques donnés par l'instance qu'on appelle l'OMS.
L'Organisation mondiale de la santé,
oui, qui a déterminé le seuil au cours duquel on dit qu'on a du diabète, c'est-à-dire 1,26 g dans le sang plasmatique, d'une définition internationale.
D'accord, il n'y a pas d'autres critères hormis celui-ci.
Oui, c'est un critère donné pour la glycémie, c'est-à-dire le sucre sanguin à jeun, mais pas avoir d'autres critères en fonction de ce que l'on cherche. Et si on veut approfondir le diagnostic, on peut dire aussi que c'est quand on atteint 2 grammes de sucre dans les 2 heures après le repas.
Alors, docteur Famao, est-ce que la malbouffe et l'hérédité sont les seules causes du diabète?
Alors, la malbouffe, j'aime pas trop ce terme.
C'est vrai.
Parce que ça devient quand même un peu un cliché. Il n'y a pas que la malbouffe, soyons clairs, qui provoque le diabète. Il y a surtout des facteurs génétiques, pas forcément héréditaires, parce qu'on peut avoir un diabète sans avoir d'antécédents parentaux diabétiques. Le diabète est une maladie, c'est un symptôme déterminé donc par la glycémie plasmatique, par le taux de sucre dans le sang, mais il n'y a pas un déterminisme purement alimentaire. Il y a des facteurs génétiques qui sont nombreux d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs causes du diabète. Facteurs génétiques, et il y a plusieurs facteurs aussi endocriniens qui peuvent provoquer du diabète. Et il faut savoir que le diabète n'est pas le propre de l'adulte, on peut avoir du diabète de l'enfant, y compris chez le bébé. Donc il ne faut pas rester dans le schéma classique un peu simpliste. Le diabète, ça concerne tout le monde, y compris des gens qui n'ont pas le profil du diabétique. Chez la femme mince, mannequin, qui n'a pas de parents diabétiques, on peut avoir du diabète, le diabète type 1. C'est-à-dire qu'il déclenche subitement, pour des raisons immunologiques, etc., qui sont un peu complexes. Mais on peut avoir un diabète, même si on n'a pas une hérédité diabétique, et si on n'a pas de malbouffe.
Et quel est le type 2? Quels sont ses composants?
Alors, le type 2, on peut dire schématiquement que c'est le diabétique qui n'est pas soumis exclusivement au traitement par insuline, c'est-à-dire qui est dépendant de l'insuline. Il y a une grande variété de type 2. C'est-à-dire, en fait, c'est le diabète de type chez qui il existe encore une réserve d'insuline, c'est-à-dire l'hormone hypoglycémiante par excellence. C'est ces gens-là, leur insuline plasmatique est normale, voire supérieure à la normale. Parce qu'on a ce qu'on appelle une insulinorésistance. Donc leur insuline n'agit pas pour différentes causes. Parce que les récepteurs ont subi des mutations, parce que les émetteurs aussi ne répondent pas au signal glucose, etc. Donc les causes sont multiples, ce qui fait la difficulté d'étude, si vous voulez, de la pathogénie, c'est-à-dire de la cause du diabète. Et les études sont multiples et on voit différentes causes possibles. Elles ne sont pas uniques, elles sont multiples.
Pourquoi, chez la femme enceinte, on observe souvent, au moment de la grossesse, justement, du diabète?
Alors, c'est vrai que la gravidité, le fait d'être enceinte, est un facteur de fragilité à ce niveau-là. Il faut savoir, d'après les études que j'ai lues, elles ne sont peut-être pas exhaustives, mais 7% des femmes enceintes en France peuvent avoir un diabète gestationnel. D'accord ? 7%, c'est quand même beaucoup. Beaucoup de ces diabètes vont régresser dans le temps, d'autres vont persister. Et je saurais vous dire quel pourcentage va persister, mais plus vous avez une hérédité diabétique dans la famille, plus vous avez des chances que ce diabète gestationnel persiste dans le temps. Voilà.
Alors, la situation est plus grave dans les DOM-TOM qu'en France métropolitaine. On parle de 8% de personnes atteintes du diabète à 5% en métropole. À quoi c'est dû?
Alors, j'ai pas fait d'études personnellement là-dessus, mais j'ai quand même l'expérience et j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est dû au fait que je pense qu'il y a beaucoup plus de transmission génétique familiale dans les DOM, et plus de proximité au niveau de la pathogénie du diabète, de la susceptibilité du diabète. Et donc on crée des mariages, si vous voulez, dont les composants sont eux-mêmes porteurs de possibilités de diabète. C'est-à-dire qui ont des facteurs génétiques diabétogènes. Et donc ça augmente le chance d'avoir du diabète. Il faut compter aussi le fait que, évidemment, chez les femmes enceintes diabétiques, d'après ce que j'observe, les femmes enceintes diabétiques font en Guyane ont un IMC beaucoup plus important que ce que j'observe chez d'autres personnes.
Qu'est-ce que c'est l'IMC, docteur?
C'est-à-dire l'index de masse corporelle, c'est-à-dire l'indice d'obésité, si vous voulez. Voilà. Est beaucoup plus important pour différentes raisons. Différentes raisons parce que dans la famille, il y a déjà une hérédité familiale, il y a des familles d'obèses, voilà. Et la grossesse est un facteur aussi de progression de l'obésité. Et en plus, ça ce sont des facteurs qui provoquent cette résistance à l'insuline, donc qui provoquent le diabète de type 2, notamment le diabète gestationnel, mais qui provoquent aussi éventuellement donc les problèmes d'hypertension pendant la grossesse. D'accord ? Donc, alors les facteurs qui interviennent en plus, ils sont aussi alimentaires, bien sûr.
Hein. On mange mal dans les dom-toms ?
Oui, manger mal. Moi, je ne suis pas très moralisant en matière de discours en général, mais disons qu'on mange trop sucré. Hein. On mange trop sucré, trop calorique. Manger mal, ça dépend un petit peu de la quantité surtout. Pas au niveau de la composante. Les composantes, je pense qu'ici, on mange un peu de tout. Mais il y a une composante quantitative, je pense, qui est la plus importante. Notamment dans le contexte familial, où on a tendance à faire des repas communs, etc., avec un apport calorique beaucoup plus important.
Est-ce que...
Excusez-moi, un facteur très important aussi, j'insiste beaucoup, c'est sur la diminution quand même de la dépense énergétique, c'est-à-dire l'activité physique. Que l'on constate après par exemple un repas ou des festivités qui impliquent des repas importants, des boissons importantes, etc., vous avez quand même un apport calorique qui est supérieur à la normale et qui n'est pas compensé par une dépense physique, par une dépense énergétique. Et tout ça entraîne une accumulation de substrats énergétiques sous forme de graisse, de tissus adipeux, qui se stockent dans les viscères, c'est-à-dire autour de l'abdomen, c'est-à-dire autour des intestins, autour de la vessie, etc., dans le péritoine, et également dans le foie. Et tout ça, c'est une graisse qui n'est pas mobilisée dans le temps, subit des modifications qui sont toxiques et provoquent le diabète. C'est-à-dire qu'elle altère les récepteurs cellulaires au sucre, voilà, et à l'insuline. Et tout ça, ce sont des facteurs qui interviennent dans ce côté-là de ce que vous dites, oui, dans la malbouffe, si vous voulez. Mais ce n'est pas une malbouffe en elle-même, c'est un déséquilibre quantitatif, plutôt. On peut appeler ça comme ça.
Le lien entre l'obésité et le diabète est-il avéré ?
Oui, il y a un lien entre l'obésité et le diabète. De mesure, comme je viens de vous dire, dans l'obésité, il y a une accumulation de graisse viscérale et de graisse hépatique, ce sont des facteurs diabétogènes dans le temps.
Est-ce que cela signifie que toutes les personnes obèses sont diabétiques ?
Non. Toutes les personnes obèses ne sont pas diabétiques et les personnes obèses qui ne seront jamais diabétiques, mais il faut voir l'historique un petit peu de la personne, notamment de l'héritage au niveau familial du diabète. Ça joue beaucoup. Et des facteurs conjoints, tels que l'activité physique, et puis la persistance dans le temps de cette obésité. L'obésité, quand on est jeune, peut être obèse, avoir 100 kg pour 1m60. Ça peut aller jusqu'à 30-40 ans, puis au bout de 45 ans, vous voyez apparaître une petite modification de la glycémie qui s'accentue, et on devient diabétique à 50 ans. Donc le diabète, l'obésité, est bien entendu un facteur de diabète.
Et comment réagissent vos patients, docteurs, quand vous leur annoncez qu'ils sont diabétiques ?
La réponse est quand même assez variable. Il y en a qui se doutent d'abord qu'ils ont quelque chose. Souvent, ils ont un bilan qui a montré. Ils disent souvent qu'ils ont eu une petite trace de diabète, un petit diabète qui n'a pas été traité. Hein. Et on voit qu'au bout de quelques années, en fait, c'est un diabète qui date depuis très longtemps. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'acceptation de la maladie, beaucoup de gens, en fait, ne masquent pas trop. Je pense qu'il y a une rétention dans l'expression de la surprise, de la déception, ou du côté anxio-dépressif qui peut succéder à cette annonce. Et les gens sont quand même, il faut le dire, assez pudiques sur ce problème-là. Ils le retiennent sur le plan mental. Et je pense que c'est un frein, si vous voulez, à... Il y a aussi quelquefois un déni de la maladie. Hein. On dit que ce n'est pas pour moi, ça va s'arranger, je vais faire un peu de gymnastique, faire du sport, je vais manger des fruits, des légumes, et je vais à des raitories et le pain, et tout va s'arranger. C'est vrai que ça s'arrange, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement. Et le reste de l'histoire, c'est que c'est un peu plus complexe, parce que malheureusement, l'obésité s'est accumulée dans le temps. Le diagnostic est un peu tardif, 40-45 ans. Et puis, comme je vous ai dit, il y a un effet cumulatif des facteurs toxiques donc, qui provoquent le diabète, qui se sont installés. Et alors, si vous avez une hérédité diabétique, ben voilà, le diabète s'installe et ça devient quelque chose, en général, irréversible. Mais on peut l'équilibrer par des mesures adaptées, par l'activité physique, par un traitement bien régulier et bien suivi. Et on vit comme tout le monde. On peut même arriver à traverser, à faire des sports, faire ce qu'on veut, quand on a bien compris qu'on est malade comme tout le monde et qu'il n'y a pas que le diabète dans le monde, des maladies beaucoup plus graves, hein, que je ne souhaite pas que vous ayez, parce que c'est quand même des choses incurables. Et des maladies qu'on appelle des maladies orphelines, des maladies rares. Mais malheureusement, les maladies rares sont quelquefois nombreuses. Chaque maladie rare a très peu de sujets concernés, mais il y a beaucoup de maladies rares. Des maladies rares qu'on ne traite pas actuellement. Vous avez des maladies aussi psychogènes, qui sont difficiles. Vous avez l'autisme, déjà. Dites-vous bien qu'il y a d'autres maladies qui sont beaucoup moins gérables que le diabète, pour lesquelles on a fait beaucoup de progrès sur le plan thérapeutique et de la compréhension de la maladie. Et ça joue beaucoup dans le devenir des diabétiques, dans le traitement et de la longévité des diabétiques, où je vois actuellement beaucoup moins de complications qu'avant.
Alors, parlons du taux de personnes diabétiques qui s'ignorent dans nos populations. Est-ce qu'on pourrait le quantifier ?
Non, j'avoue que moi, je ne suis pas dans l'ambiance de l'étude du diabète sur le plan scientifique épidémiologique. C'est un constat et c'est un acquis culturel, tout simplement, dans mes lectures, etc. Alors, difficile de dire, mais je pense qu'on est dans une fourchette. Ce n'est pas une fourchette qui sera très large, mais je pense qu'il est raisonnable de dire qu'il y a en Guyane, par exemple, je pense qu'il y a entre 6 et 8 %. Alors, ça dépend comment on recrute. Est-ce que c'est le nombre par rapport au nombre de maladies totales ou c'est par rapport à la population? 6 % de diabétiques parmi les malades? Peut-être, oui. Pas dans la population, je ne saurais dire. Dans la population, ce serait beaucoup moins, bien sûr. Donc, pour savoir de quoi on parle. Hein. Ah, 6 % de la population et 6 % des maladies, c'est quand même pas la même chose.
Alors, le diabète, c'est une maladie indolore, invisible, mais pour...
Elle est invisible au début.
Et quelles peuvent être justement les complications liées au diabète qui vont rendre la maladie visible?
Bon, on n'est pas dans l'esprit de faire un petit peu de provoquer de l'inquiétude ou de l'angoisse, etc. Bon, il est certain que le diabétique ne se suit pas, qui n'a pas compris la maladie, qui suit trop des conseils un peu désordonnés ailleurs, à gauche et à droite, une des complications possibles, c'est très fréquent, ce sont les problèmes d'artériopathie, n'est-ce pas? C'est-à-dire des plaies qui ne guérissent pas, qui finissent par une amputation. C'est rare! C'est beaucoup plus rare que ce que je voyais il y a 20 ans. Hein, c'est beaucoup plus rare. Et malheureusement, l'une des maladies, malheureusement, qui est la plus fréquente actuellement, je trouve, par rapport à l'artériopathie, l'amputation des jambes, etc., c'est quand même l'infarctus du myocarde et l'AVC. C'est une des complications actuellement qui est la plus fréquente. Alors, c'est souvent chez les gens, malheureusement, qui ont quand même une fragilité de ce côté-là. Hein, une fragilité de ce côté-là, je pense, familiale, hein, d'AVC, d'infarctus du myocarde. Voilà. Il y a quand même une modification dans le profil de ces complications-là. Les autres complications possibles, alors ça c'est visible l'infarctus, c'est pas visible sur Facebook, hein, ni sur
Instagram,
c'est pas visible, hein,
Twitter.
De belles filles, de jogging, de monsieur muscle, etc. Mais on voit pas des gens qui ont fait un infarctus qui sortent de l'hôpital, voilà, et qui provoquent quelquefois des morts, qui ont un pontage coronarien, un triple pontage ou un quadruple pontage, etc. Donc ça c'est visible, non pas visible physiquement. C'est visible par la connaissance et par l'objet de nos recherches. Quand on questionne les gens, ça, c'est visible. Une visibilité culturelle et par la lecture et par les statistiques de la sécurité sociale notamment. Et par le médecin qui va son fichier grandir de plus en plus à cause de complications qui pourraient être évitées. Alors l'une des complications visibles, mais ce n'est pas visible au sens photogénique, bien sûr. On n'est plus sur Instagram, mais c'est des complications rénales, bien sûr, les dialyses, qui ne se voient pas au sens pur, mais qu'on voit dans les couloirs des centres de dialyse. Là, on les voit, les gens, n'est-ce pas ? Voilà. On peut appeler ça, donc, comment ça peut se voir ? Je ne dirais pas ça comme ça, je dirais comment ça peut se constater par différents moyens, par l'information indirecte, par le médecin ou la famille. C'est comme ça que ça se voit, que ça constate.
Voilà. Docteur Famaro, est-ce qu'il y a de quoi se satisfaire aujourd'hui par rapport à la prise en charge et surtout l'avancée dans les recherches relatives au diabète ?
Non, moi, je ne peux pas me satisfaire des possibilités actuelles et des outils actuels. Nous avons des outils insuffisants. Nous avons quand même des gens compétents ici dans toutes les spécialités qui s'occupent des complications du diabète. Mais il faut toujours plus, faut toujours être exigeant dans la vie. Et on a beaucoup de choses à faire, on ne va pas culpabiliser le manque de moyens, parce que le manque de moyens, ce sont des moyens d'abord financiers, c'est aussi un moyen humain, il faut que les gens s'impliquent, par les médecins, par les infirmières, par les patients eux-mêmes, faut aussi que les politiques eux-mêmes et une vision un peu plus large du tissu urbain et socio-économique qui retentit sur la santé, n'est-ce pas ?
Et si vous avez... Parler du manque d'infrastructures, des pistes cyclables...
Ben, des rues piétonnes qui manquent, par exemple, ça joue quand même de l'activité physique. Okay. Quand on ne peut pas marcher contrairement sur le bord du trottoir parce que y a un vélo qui va vous voler votre portefeuille, parce qu'il n'y a pas trop de trottoir du tout, n'est-ce pas ? Ça limite un petit peu l'incitation à marcher sur le trottoir. Et ce sont des facteurs qui sont des modèles, si vous voulez, de ce qu'il faut obtenir pour améliorer la santé des gens, des choses simples. C'est un temps urbain plus large. À long terme, c'est une politique qu'il faut d'abord penser et vouloir.
Et quelle analyse peut-on faire en Guyane ? C'est peut-être ce qui joue dans ce nombre de cas supérieur à ce qu'on peut constater dans les grandes villes métropolitaines, par exemple.
Les grandes villes métropolitaines. En France, vous avez des transports urbains où les gens se précipitent pour prendre le transport urbain.
Okay.
Ils prennent pour un kilomètre pour prendre le prochain métro ou le prochain bus. Ici, on prend la voiture qui est à 2 mètres. Okay. Simplement. D'accord ? On va faire des courses au supermarché, machin, on part du métro, on va au magasin ou truc, qui est à 600 mètres, 700 mètres. Ici, on va au magasin truc, donc on prend la voiture devant le magasin truc. C'est l'un des facteurs. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de volonté d'avoir une activité physique. Ils ne peuvent pas physiquement et structurellement. Beaucoup de gens n'ont pas la possibilité d'avoir l'activité qu'ils souhaitent.
À l'occasion de cette journée internationale du diabète, je vais vous laisser, docteur Pierre Famaro, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour sensibiliser davantage nos jeunes, nos adultes et peut-être même les personnes âgées le fait de se prendre en main et de faire attention à cette maladie, tout simplement, qu'est le diabète.
Bon, Je pense que, au vu de ce que je vois, les jeunes sont plus sensibles. Et je vois aussi des personnes plus âgées beaucoup plus sensibilisées aussi à ce problème. Mais encore une fois, il ne suffit pas de sensibiliser. Encore faut-il que les gens puissent trouver les moyens de rectifier leur parcours pour améliorer les choses. S'ils ne peuvent pas, comment peut-on faire? Si on n'a pas moyen de transport, si on n'a pas les espaces nécessaires pour augmenter l'activité physique, pour faire des choix alimentaires, comment voulez-vous changer les choses? Il faut aussi que... Il ne faut pas compter sur les politiques sans faire de la politique. Il ne faut pas compter que sur les politiques. Il faut aussi compter sur le citoyen qui doit stimuler le politique. Il faut élargir un petit peu le champ de la vision à court terme. Une ville, ça se construit sur des décennies. Des boulevards, ça se construit sur des décennies. Ce sont des structures faites pour durer et qui élargissent la structure urbaine. Elle favorise et conditionne aussi la santé des gens. Donc si on ne compte pas dessus, si on compte seulement sur l'hôpital pour faire des queues, un service de pédiatrie ou autre, pneumologie, en orthopédie, après les accidents de la route, si on ne se compte que de ça, on ne va pas y arriver.
À ceux qui disent que le diabète est une maladie des pauvres, que répondez-vous
à Non, ce n'est pas seulement une maladie des pauvres, c'est vrai qu'on trouve plus de diabète de type 2, chez les gens à moyens économiques inférieurs, c'est vrai, à cause de le problème alimentaire. C'est des restaurations rapides, des choses qui se mangent vite, qui se mangent moins cher. Et donc, on trouve de ce côté-là des types 2, beaucoup plus souvent, c'est vrai, dans la classe économique défavorisée. Le diabète de type 1 n'a rien à voir. C'est le diabète qu'on n'a pas choisi, qui vous vient sur la tête, n'est-ce pas? C'est des gens qui n'ont pas d'hérédité familiale. Et voilà, c'est la loterie de la vie. Mmh. Le diabète de type 1, c'est une maladie complexe. Il y a plusieurs types 1 d'ailleurs, des types 1 rapides, brutaux, qui surviennent chez l'enfant ou chez le bébé, etc. Et le type 1 qui vient à l'âge de 30-35 ans parce qu'on a eu du stress. Le stress intervenant beaucoup dans cette pathologie-là.
Ce sera ma dernière question, c'est la part de la graisse, puisqu'on pense souvent au sucre qui provoque le diabète, mais la graisse, le fait de consommer beaucoup de graisse, n'est pas non plus anodin.
La graisse intervient en quelque sorte sur le plan métabolique, pour des phénomènes métaboliques qui font que l'excès de graisse provoque dans le sang une intolérance à glucose. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un peu la famille de la sinusrésistance. Et cette graisse dans le sang provoque est diabétogène. Le fait de manger du sucre est diabétogène aussi. Parce que trop de sucre va se stocker sous forme de graisse, comme j'ai dit tout à l'heure, la graisse se transforme. Le sucre se transforme en graisse. Le sucre est une énergie qu'on trouve dans le sang très facilement, mais quand elle n'est pas utilisée, elle se stocke. Et je reviens là donc à mon intervention de tout à l'heure, de dire que ce stockage-là, au bout de certains temps, devient toxique. Parce qu'il s'oxyde sous l'effet de l'oxydation, il devient toxique, il devient diabétogène.
Très bien, merci beaucoup docteur Pierre Famaro d'avoir accueilli Radio Mayuri Campus dans votre cabinet et de nous avoir éclairé sur cette maladie à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Merci.
Oui, je suis très heureux d'intervenir et favoriser un petit peu une communication sur cette maladie sur laquelle on parle beaucoup, sur laquelle on a beaucoup de préjugés. Il est bon de temps en temps de favoriser un peu plus de connaissances sur cette maladie.